Radio Univers.
Logosphère. Zone autonome de parole et de pensée libre. Agora, où se mêlent expériences et réflexions sur ce monde que nous partageons. Une sorte d'université populaire sonore. C'est maintenant sur les ondes d'univers. Si l'on parle régulièrement de la crise que nous traversons comme une crise économique et financière, il serait naïf de ne la réduire qu'à cela. En effet, ces dysfonctionnements de l'économie ne sont que les symptômes et la dimension quantitative d'une crise beaucoup plus profonde, qui est celle de la manière dont nos sociétés sont dirigées et structurées. Là où l'on peut constater que crise économique et crise sociale sont évidemment intriquées, c'est justement dans la répartition des richesses. Or, en la matière, l'évolution des 30 dernières années a été au creusement des inégalités et à la sortie des ultra-riches hors du monde commun. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? En quoi peut-on parler d'une séparation des riches d'avec le reste de la société? Quelles sont les caractéristiques du système qui a permis cela? Pourquoi le reste de la société a toléré cette évolution? Quelle manière de concevoir notre rapport aux autres est-ce que cela a supposé? Et quelle nouvelle conception individuelle et collective serait-il aujourd'hui nécessaire de penser? Ce sont les questions que nous avons posées à Thierry Pêche, directeur de rédaction au journal Alternatives économiques, secrétaire général de la République des idées, conseiller à la CFDT et qui vient de publier son dernier ouvrage, Le temps des riches, anatomie d'une sécession. Nous l'avons rencontré à l'occasion d'une intervention au Champ Libre à Rennes. Thierry Pêche, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur d'Alternatives économiques et vous venez de publier un livre qui s'appelle « Le temps des riches, anatomie d'une sécession ». Alors justement, dans ce livre, vous parlez d'une sécession des riches et d'un retour à grande vitesse de la structure sociale de nos sociétés vers celle du modèle du 19e siècle qui était caractérisé par de très grandes inégalités. Alors, tout d'abord, pourquoi parlez-vous de sécession? Et seconde question, depuis quand s'est enclenchée cette dynamique sociale?
Je parle de sécession parce que le sort des plus riches n'a absolument plus rien en commun avec le sort des autres. Puisque c'est votre deuxième question, j'y réponds tout de suite, depuis à peu près 25 ans, on a vu se mettre en place une dynamique qui est celle de, finalement, oui, ce qu'on appelle la sécession des riches, c'est-à-dire celle de la séparation du sort des riches du sort des autres. Ça a pris des formes quantitatives connues, très documentées, leurs revenus ont énormément augmenté, alors que ceux des autres augmentaient beaucoup plus lentement. Les revenus ne font que traduire une autre forme de sécession, qui est une sécession culturelle. C'est-à-dire que l'idée qui s'est développée et qui a été beaucoup promue dans ces années-là, c'est l'idée que les riches ne devaient plus rien à la société, c'est la société qui leur devait tout, qui leur devait une fiscalité plus accommodante, qui leur devait des conditions d'exercice de leurs activités plus favorables. Bon. L'idée centrale, c'était que plus de riches, c'était bon pour tout le monde, que ça créerait de la croissance, que ça créerait de l'emploi, que ça créerait de l'activité, de la consommation. Et ce miracle ne s'est pas produit, ou plus exactement, la première partie seulement du miracle s'est produite. C'est-à-dire que les revenus des plus riches ont effectivement beaucoup augmenté. Mais on n'a pas vu que dans le même temps, l'emploi et la croissance se soient beaucoup développés.
Alors, cette mutation, selon vous, va de pair avec le passage à un nouveau régime du capitalisme. On serait passé d'un capitalisme familial à un capitalisme d'héritier. Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu ce type de capitalisme-là ?
Alors, le capitalisme familial et le capitalisme d'héritier fonctionnent ensemble, ensemble en réalité. Le capitalisme familial, c'est très simple, c'est lorsqu'une famille possède une bonne part des actions d'une entreprise. On parle dans ce cas-là de capitalisme familial. Le capitalisme d'héritier, c'est quand vous ajoutez à cette première situation le fait que le dirigeant de l'entreprise, le manager, est lui-même issu de cette famille. Et il est en général l'héritier de celui qui a fondé l'entreprise ou le petit-fils de celui qui a fondé l'entreprise. Or, il n'y a aucune raison de penser que cette personne, du seul fait de sa filiation, de son lien de parenté avec le fondateur, soit particulièrement talentueux ou particulièrement désigné de ce seul fait pour diriger l'entreprise et la conduire vers des horizons, disons, prometteurs. C'est donc un vrai problème d'avoir un capitalisme d'héritier, parce que c'est un capitalisme qui ne promeut pas le talent, ou qui, plus exactement, le place au second plan, ou au troisième plan, ou au quatrième plan, derrière d'autres considérations qui ne sont pas de nature à nous donner confiance dans l'économie.
Alors, vous avez parlé aussi d'un nouveau type d'individualisme qui va avec ce type de capitalisme-là. On passe d'un individualisme qui était émancipateur, critique vis-à-vis des grandes institutions comme l'Église, par exemple, l'État. On passe à un individualisme narcissique. Je crois que vous parlez de ça. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu cette idée-là ?
Je parle de conformisme compétitif pour qualifier cet individualisme nouveau, si vous voulez, qui s'est vidé de sa substance morale. C'est-à-dire qu'effectivement, aux origines de l'individualisme en Occident, il y a l'idée d'une autonomie à l'égard des traditions, à l'égard des institutions, que ce soit l'Église ou l'État. Cette idée d'autonomie est très forte, elle est très positive du reste. Il ne faut pas prendre l'individualisme en mauvaise part. Historiquement, ça a été une révolution positive de l'autonomie. Aujourd'hui, l'individualisme qu'on voit se développer n'est pas exactement celui-là. Finalement, les grandes résistances contre lesquelles l'autonomie s'était dressée, résistance de l'Église, puisque vous en avez parlé, résistance de l'État, résistance des traditions, etc., ne sont plus là. En réalité, il n'y a plus rien de commun entre la résistance que pouvait rencontrer un individualiste du début du 19e siècle et les résistances quasiment inexistantes de ce point de vue-là, du point de vue moral, que peut rencontrer un individualiste aujourd'hui. L'individualisme aujourd'hui est corrélé aux résultats, à la performance, qu'elle soit positive ou négative. Et c'est ça que j'appelle le conformisme compétitif. C'est-à-dire qu'aux perdants, on demande d'intérioriser les raisons de leur défaite, aux gagnants, on reconnaît le triomphe de leur mérite, de leur supposé talent. Cette histoire est bien sûr largement une fiction. Il y a beaucoup de perdants qui ne sont en rien responsables de leur défaite et beaucoup de gagnants qui ne sont pas pour grand-chose à leur triomphe. Mais c'est quand même l'histoire qu'on se raconte aujourd'hui, et c'est cette histoire qui, me semble-t-il, s'est largement diffusée dans la société française.
Alors, je tente une question sur un fil. Tout à l'heure, vous parliez de ce capitalisme d'héritier, et on fait ce lien avec cette société qui promeut cet individualisme amoral et oublieux. Est-ce qu'il y aurait une relation que vous pourriez voir entre le fait qu'on promeut les héritiers et cet individualisme-là?
Mais là, il y a une grande contradiction, en réalité. C'est la contradiction d'aujourd'hui. C'est que la réussite d'un héritier, elle tient simplement au fait qu'il s'est donné la peine d'être né, comme disait Marivaux. Mm-hmm. Au bon endroit, dans la bonne famille. Donc, il n'est pas du tout dans le récit du mérite, l'héritier. Ce qui lui arrive du fait de sa naissance, pas du fait de ses efforts, pas du fait de son talent, pas du fait de son utilité publique. Donc il y a contradiction, je dirais, entre les règles de l'héritage et les règles du mérite. Et c'est cette contradiction qui éclate aujourd'hui. C'est-à-dire que d'un côté, on vous raconte l'histoire des mérites individuels, et de l'autre, on pratique une toute autre philosophie, qui est celle tout de même de l'assignation des individus à des destins tracés d'avance. Cette contradiction, elle travaille la société française, elle finira par éclater, parce que le jour où on comprendra qu'on ne peut plus regarder les jeunes dans les yeux, en leur expliquant que s'ils font des efforts, s'ils travaillent bien, s'ils ont du talent, la vie leur appartient et le succès les attend, le jour où on ne pourra plus croire à ça, à ce moment-là, la promesse démocratique sera rompue. Donc il faut commencer à s'en inquiéter très sérieusement.
Alors, je vous parlais, au-delà des mesures concrètes permettant de réintroduire une nouvelle régulation de la richesse, de la nécessité d'une nouvelle philosophie sociale. D'après vous, quelles en seraient les grandes pistes, les grandes lignes? Qu'est-ce que vous voyez à ce niveau-là?
C'est très simple et très compliqué. C'est très simple à résumer, c'est très compliqué à mettre en place. Il faut réveiller chez chacun le sentiment de la dette sociale. Il faut que chacun ait conscience qu'il est né dans une société qu'il a protégée, qu'il a éduquée, qu'il a nourrie, qui lui a donné l'héritage de toutes les connaissances qu'elle avait accumulées pendant des siècles. Il faut que chacun se sente participer d'une histoire collective. Il ne s'agit pas d'enfermer les gens dans une espèce de collectivité engluante. Il s'agit juste de rappeler aux gens que leur autonomie est le fait d'une construction collective. Qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux, il y a un lien de causalité. Je disais en plaisantant lors de la conférence à laquelle vous avez assisté, les individus contemporains sont des plantes de serre qui se prennent pour des animaux de la jungle. Ils se prennent pour des animaux de la jungle parce qu'ils oublient tout ce qu'ils doivent à la serre, tout ce qu'ils doivent au fait que la chaleur confortable de la serre n'est pas artificielle. Quel est le fait de prélèvements obligatoires, d'impôts qui ont été payés, qui ont permis de payer le gasoil pour que la serre soit chauffée, etc. etc., etc. Bon. On est tous des plantes de serre, d'une certaine manière. Il faut juste qu'on en ait un peu plus conscience. Voilà. Et c'est comme ça qu'on, je pense, qu'on réveillera une philosophie sociale plus juste.
Thierry Pêche, merci.
Merci.
Logosphère, Agora, sur les ondes et sur le web. Logosphère se prolonge sur le site www.radio-univers.com.
Radio Univers.